Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguerre.
Bonjour, nouveau numéro de Binti Minoudi avec donc aujourd'hui comme invité François-Xavier Tchekoli, le président de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse, conseiller territorial, maire de San Giuliano. François-Xavier Tchekoli, merci d'être avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Au sommaire, évidemment, les municipales à Bastia et ailleurs, une échéance qui nous permettra d'évoquer la situation de la droite dans l'île et plus particulièrement celle de votre parti, Les Républicains. Comme au niveau national, on va dire, c'est un euphémisme, que c'est compliqué. Nous aborderons aussi l'inépuisable dossier des déchets avec le feu vert donné par le tribunal administratif de Bastia au centre de Dioncadio. Vous nous donnerez votre sentiment en tant que voisin de la plaine orientale. Mais avant, François-Xavier Tchekoli, la violence au cœur du débat public depuis la fin de l'été avec la création de deux collectifs anti-mafia. Le dernier en date à Cargès, il porte le nom de Maxime Souzigne, ce jeune militant nationaliste assassiné à la mi-septembre, collectif créé ce samedi, Mafia. Le mot est revenu souvent, notamment dans la bouche de Vincent Coux, qui présidente l'association de défense de l'environnement ABCDE.
La mafia, moi je sais qu'elle existe parce que je l'ai rencontrée. Je l'ai rencontrée dans l'extrême sud, je l'ai rencontrée sur les chemins quand on m'a suivi, je l'ai rencontrée dans les mairies, je l'ai rencontrée quand on m'a fait sauter ma maison, je l'ai rencontré quand on, je l'ai appris dernièrement de manière fortuite qu'une personne, une certaine personne avait mis un contrat sur ma tête. Est-ce qu'il est normal, quand on fait son travail de citoyen, quand on s'élève contre des passe-droits, quand on s'élève pour que notre terre soit préservée d'intérêts mafieux, on soit soumis à ce régime-là de peur? J'ai peur pour mes enfants. Là, je m'exprime en mon nom propre. Hein, et d'autres associations aussi ont subi les mêmes mesures de rétorsion lorsqu'elles se sont élevées contre ce système. Et on n'a pas voulu non plus, on n'a pas osé parler pour ne pas qu'on passe pour des victimes. Or, nous sommes des victimes. Et je crois que tous les Corses qui subissent ce système sont des victimes. Et nous avons peur. Et c'est pas normal.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
François-Xavier Tchekoli, vous partagez ce constat fait par Vincent Coux, qui fait par beaucoup d'autres aussi, la Corse est victime d'une dérive mafieuse ou pré-mafieuse?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense déjà qu'il faut rendre hommage à Madame Coux, qui, parce que malgré tout ce qu'elle a affronté, elle a gardé cette liberté de parole et elle dénonce ce que j'allais vous dire, ce qui est sans doute le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir parler, dénoncer les choses. Rien ne serait pire que l'omerta, on le voit bien. Dans ce que nous traversons aujourd'hui au niveau de la Corse, cette criminalité rampante ne peut être mise en avant que quand elle éclate au grand jour. Rien ne serait pire que de laisser faire, de se résigner et encore une fois de considérer que c'est inéluctable. Il y a malheureusement des porosités qui existent en Corse depuis la nuit des temps entre des actions concrètes, légitimes et d'autres illégitimes.
Christophe Castaner, mardi à l'Assemblée nationale, a parlé de collusion entre la grande criminalité et une certaine classe politique.
Oui, bon, alors écoutez, Monsieur Castaner, j'en souris parce que on peut dire tout et son contraire, collusion, pourquoi pas, etc. Il faut encore que ce soit crédible.
Vous avez parlé de porosité.
De porosité. Moi, je pense que bien évidemment, aujourd'hui, ce que j'appellerais traditionnellement la criminalité organisée se développe au contact des grands acteurs économiques, des pans de l'économie qui peuvent l'intéresser. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ne sont pas des bienfaiteurs de l'humanité. Ils recherchent avant tout à faire des affaires. Donc, bien évidemment, ils vont se tourner vers ce qui est possible pour eux de leur apporter de l'argent à brève échéance, que ce soit l'immobilier, le transport et autres. On est vraiment dans une attitude de prédation.
Vous, en tant que maire, en tant qu'élu, vous avez déjà été victime de pression?
Alors écoutez, très sincèrement, non. Je vais vous parler franchement, mais il ne faut pas s'arrêter à ce registre de la pression directe. Nous, sur la commune de San Giuliano, nous avons gelé les 6 km de bord de mer depuis déjà une vingtaine d'années. Donc, on n'a pas attendu le Padduc, vous voyez.
Et c'est
donc
bien passé.
Et ce faisant, comme tout le monde était concerné de la même façon, c'est quelque chose qui avait un temps d'antériorité, c'est bien passé. Et je vous mentirai en disant qu'on a été menacé. Mais je crois que ce ne sont pas toujours des menaces directes. Vous savez, ça peut être un mot qui est transporté par quelqu'un, ça peut être une intuition, ça peut être le sentiment de se faire suivre, comme disait Madame Cook. Il faut voir là-dedans aussi une guerre psychologique qui peut conduire certaines victimes ensuite à certaines personnes à devenir victimes.
Et ce climat, vous l'avez ressenti, ce climat mafieux, pré-mafieux, autour de vous ?
Alors moi, je ne suis pas aujourd'hui dans des
secteurs... La plaine orientale, il y a beaucoup de choses qui se créent, il y a beaucoup d'intérêts aussi.
Voilà. Alors écoutez, la plaine orientale, c'est vaste, mais c'est vrai que du côté où je suis, où nous sommes sur Sainte-Julienne, ce sont surtout des terrains agricoles. Il n'y a pas eu de lotissement chez nous depuis la nuit des temps. On n'a pas d'enjeu immobilier. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ailleurs. Bien sûr que ça existe, puisque quand on voit des endroits où il y a eu de nombreux assassinats et des booms immobiliers, encore une fois, on est dans l'un de ces terreaux fertiles qui permettent justement à cette grande criminalité de prendre pied.
Dans votre région, il y a aussi les déchets qui aiguisent les appétits. On va en parler dans un instant, des déchets, mais au niveau de la grande criminalité, ça peut intéresser certains.
Alors complètement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous faites bien de le rajouter. On est exactement dans un domaine où, là encore, il ne faut pas avoir fait Polytechnique ou l'ENA pour faire des déchets. Et donc, ça peut constituer pour certains une source de rentabilité très forte. Et c'est là aussi où je pense que la collectivité doit jouer son rôle de maître d'ouvrage sur ces sujets-là à terme, afin que ce soit vraiment la personne publique qui s'occupe des déchets en Corse.
On va y revenir. François-Xavier Tchéco, les deux collectifs se sont créés, puis un débat a eu lieu fin septembre à Corte, où la parole a été libérée, mais un débat qui s'est quasiment limité aux seuls nationalistes. Pourquoi les autres forces de droite, de gauche, n'y ont pas participé? Vous ne vous sentez pas concerné?
Alors, bon, pourquoi les autres n'y ont pas participé? Je vais leur laisser, bien sûr, la parole, mais je vais vous parler, en tout cas, de ma position à moi. Bien évidemment que nous avons accueilli ça avec un œil bienveillant, mais on essaie de ne pas politiser cette situation-là et cette chose-là. Moi, ce qui me déplaît, je vais vous parler franchement, je suis pas un adepte de la langue de bois, c'est qu'aujourd'hui, quand on charge la mule de l'État ou la barque de l'État en disant « ils sont responsables de tout », on raconte un peu n'importe quoi. Si l'exemple, c'est à un moment donné certaines îles de Méditerranée comme Malte, où là on n'en est plus aux prémices de la grande criminalité, mais on a un État en entier qui est gangréné, où on assassine des journalistes, eh bien ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut arrêter ici de brocarder l'action de l'État. Bien sûr que peut mieux faire, bien sûr qu'il faut continuer, bien sûr qu'il faut des moyens en plus. Mais quand vous voyez par exemple que le nombre d'assassinats a quand même baissé ces dernières années, il faut aussi savoir le dire. Quand vous voyez qu'aujourd'hui, si le bouclier qu'est l'État n'était pas présent...
Mais beaucoup disent que l'économie est davantage infiltrée par ces intérêts mafieux.
Moi, je ne crois pas que ce soit davantage, c'est trop, mais
depuis
quelques
années...
Cette
criminalité, en quelque sorte, s'est installée.
Oui, tout à fait.
C'est ce sentiment qui prévaut aujourd'hui.
Mais moi, je pense que ce sentiment est vrai, en tout cas. Il reflète une réalité, mais ça ne date pas d'il y a un an ou deux. Moi, je pense que le mal est plus ancien. Et ce mal, aujourd'hui, il fait que de l'argent qui a été blanchi peut être réinvesti, malheureusement, de la manière la plus légale possible, dans des pans entiers de l'économie. Mais comprenez aussi, il y a malheureusement un savoir-faire morbide chez nous qui fait que il n'est pas toujours évident d'arriver au bout de certaines enquêtes, y compris des enquêtes financières, parce que quand, encore une fois, l'argent a été blanchi, et qu'il est réinvesti, il devient intraçable. Donc ce que je voudrais surtout dire, c'est que bien sûr qu'il faut améliorer les choses, mais qu'on ne nous explique pas, comme malheureusement c'est le cas pour une partie des nationalistes, que si on était aujourd'hui indépendant, ce serait mieux. Ce serait mille fois pire.
Vous n'êtes pas de ceux qui disent c'est la faute uniquement de l'État, mais qui d'autre alors?
Ben d'abord nous, notre société.
Dire c'est une responsabilité collective, c'est une façon de dire aussi personne n'est responsable. À un moment donné, il faut nommer les choses.
C'est surtout une façon
et
de désigner dire
les gens, enfin, que les tout gens le monde, ou les groupes d'intérêt.
Que tout le monde est responsable et que tout le monde doit balayer devant sa porte. Déjà, notre économie, et je reprendrai ce qu'a dit M. Benedetti quand vous l'avez invité, à juste titre, il faut arrêter aussi de glorifier le voyou et il faut arrêter dans cette société qui est la nôtre, méditerranéenne, plutôt de prendre comme modèle des gens qui ont un casier judiciaire plutôt que des gens qui travaillent tous les jours, 8 heures par jour, à la sueur de leur front pour nourrir leur famille.
Vaste programme. Allez, on continue.
20 minutes, l'émission politique.
Autre feuilleton sans fin en Corse, c'est un peu notre spécialité d'ailleurs, les déchets. Les années passent et les problèmes demeurent. Dernier épisode, le tribunal administratif de Bastia qui autorise la société Oriente Environnement à créer un centre de stockage à Duncaglio, provoquant une levée de boucliers, entre autres du collectif Tavigliano Bio, qui par la voix d'Alexis Cortin, qui l'un de ses membres, parle de la chronique d'une catastrophe annoncée.
C'est la chronique de trois catastrophes annoncées. La première, elle est écologique, parce que tout ça finira dans l'eau. Nous sommes à 10 km dans la basse vallée du Tavignane de l'embouchure, donc on va polluer non seulement la basse vallée, mais également la mer. Nous avons à 3 km en aval de ce projet deux captages d'eau. Le premier, il est pour l'eau sanitaire, donc là, ça sera une catastrophe sanitaire qui s'annonce. Et puis la troisième, elle sera économique, parce qu'on puise de l'eau également pour arroser les clémentiniers qui sont en AOP, en AOC, etc. Donc économiquement aussi, on perdra des AOP et des AOC, et la micro-région perdra aussi son attrait touristique. Donc, trois catastrophes annoncées, et on ira jusqu'au bout pour éviter ce genre de choses. Enterré, oui, mais pas là.
RCFM, Binti Minoudi, l'émission politique.
François-Xavier Tchekol, et vous aussi, vous êtes opposé à ce projet qui a vol d'oiseau. Ce centre n'est pas très loin de chez vous, San Giuliano.
Oui, on doit être, je pense, à une trentaine, 30-40 kilomètres. Mmh. Alors, c'est vrai que c'est un sujet épineux. Bien évidemment, aujourd'hui, on ne peut que considérer l'échec de la majorité territoriale sur le sujet des déchets, puisqu'on voit bien que là aussi, on allait voir
on
ce qu'on allait voir.
On va en parler des responsabilités, mais tout d'abord sur le centre du Junkard. Vous êtes contre,
j'allais
opposé.
Vous dire, enfin, moi, en tout cas, je ne pense pas que la proximité d'un environnement comme le Tavignan, aujourd'hui, soit susceptible d'amener les meilleures garanties possibles. Après, il y a une décision de justice. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. J'ai cru comprendre que certains mettaient en cause des études qui auraient pu être faites au niveau environnemental. Donc, si vous voulez, c'est vrai que je ne connais pas le fond du dossier sur le côté environnemental. Mais il est clair que la proximité du Tavignan par rapport à un tel site n'est pas sans susciter de fortes inquiétudes.
En fait, François-Xavier Tchekol et tout le monde dit la même chose. Les centres de stockage, les déchetteries, d'accord, mais pas chez moi.
Exactement.
Comment s'en sortir dans ces conditions ?
Déjà, comment s'en sortir ? Je pense que la première erreur a été faite il y a quelques années, avant que les nationalistes n'arrivent au pouvoir. C'est-à-dire qu'on a fermé dans la précipitation des centres qui existaient. Et ceci étant fait, on a créé un déséquilibre entre ce qu'il restait à enfouir et ce qu'il était en capacité d'enfouir. Donc je pense qu'il aurait mieux valu accompagner le mouvement en disant aux gens qui, malheureusement, étaient au cœur de ces enjeux-là, en disant « voilà, on vous propose une sortie à 10 ans, on va continuer à travailler sur le tri, sur le reste, et vous verrez, dans 10 ans, croyez-nous, à l'horizon, vous verrez qu'on fermera ces centres. » On n'a pas fait comme ça. On a d'abord fermé les centres.
Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On ne va pas refaire l'histoire.
Non, mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut quand même la refaire aussi, parce que quand on prend les choses à l'envers, on le paye. Quand on ferme les centres avant d'avoir les sorties, on le paye. Et quand aujourd'hui on nous dit qu'il sera facile de créer des centres, eh bien j'ai l'impression, moi, qu'il n'en est rien. Donc, que vous dire ? Il faut que les gens qui sont aujourd'hui en capacité de décider, décident. Qu'ils trouvent la solution de ces futurs centres. On n'en voit pas le bout. Mais encore une fois, cette question,
donc,
elle mérite d'être posée aux décideurs.
La responsabilité principale incombe, selon vous, à la collectivité de Corse.
Mais bien évidemment, c'est à elle aujourd'hui de faire action pour qu'on ouvre ces fameux centres. Quelqu'un dit, votre interview disait un centre obligatoirement oui, pas à cet endroit. Mais encore faut-il trouver des solutions. Je vous répète, c'est à la collectivité maintenant, et notamment à la majorité territoriale qui est en capacité de majorité absolue, de trouver les solutions que tout le monde attend.
Oui, mais c'est compliqué. Tout le monde dit nous, très près de chez vous encore, Pougnet-Lévioux-Maubre ne veut plus accueillir les poubelles des autres régions. Viganil, ça ne va pas tarder. Dans un an, dans six mois, on va se trouver dans une situation de crise, encore une fois.
Mais exactement, mais si vous voulez, encore une fois, on sait que Prunier-Lévioux-Maubre, j'ai envie de dire les pauvres, eux sont dans leur stock, dans leur niveau d'accueil qui est de l'ordre de 40 000 tonnes. Ils n'ont pas vocation à devenir la poubelle de la Corse. Il faut qu'aujourd'hui, il y ait une responsabilisation des différentes zones pour que des sites soient ouverts afin que chaque micro-région au sens large assume sa position à ce niveau-là. Donc, je crois qu'il est urgent que la collectivité trouve la solution pour mettre en place deux sites d'enfouissement. Ça passe par là, le temps que le tri et les habitudes changent, mais pas l'inverse.
Puisque chez nous, on ne lésine pas sur les études, peut-on faire l'économie d'une étude sur un incinérateur, même si c'est une solution qui ne pourrait devenir effective que dans plusieurs années, et donc de ne pas répondre aux problèmes actuels, mais peut-on faire l'économie d'une étude sur un incinérateur ?
Monsieur Vinciguer, deux remarques avec le sourire sur ce que vous venez de dire. La première, on a du mal à créer un centre d'enfouissement. Je vous laisse imaginer la facilité qui serait nôtre à créer un site propre à l'incinération. Je vous laisse apprécier. La deuxième, même si l'incinérateur a été une solution, on le voit avec les directives européennes, c'est un peu technique mais c'est le cas, on le voit aussi avec l'évolution qui se passe, on est en train de s'en détaché partout en Europe. Donc revenir sur un incinérateur aujourd'hui encore,
la solution
à moyen terme.
La solution la pire selon l'Union européenne, c'est quand même l'enfouissement.
Oui, mais c'est pas tout à fait en ces termes-là. C'est-à-dire que la Commission européenne critique, et elle a raison, ce qui se passe aujourd'hui en Corse. Mmh. C'est-à-dire qu'on enfouit tout et n'importe quoi. Mais enfouir les déchets, entre guillemets, ultimes, ça c'est quelque chose qui peut convenir.
Affaire à suivre.
Binti Minoudi, l'émission politique.
Alors, dernière partie de cette émission, on évoque les municipales. À Bastia, votre parti, François-Xavier Tchécol, et votre parti, les Républicains, vous êtes le président de la Fédération de Haute-Corse, a décidé de soutenir Jean-Martin Mondolone, qui n'est pas LR, contre Stéphanie Grimaldi, qui l'est. C'est logique.
Alors, vous me permettrez de corriger un petit peu votre propos. En vérité, il ne s'agit pas de soutenir Jean-Martin Mondolone. Ce sur lequel nous avons à œuvrer, c'est la création d'une liste unique.
Vous ne soutenez pas Stéphanie Grimaldi, en tout cas.
Non, quand vous dites ça, vous avez entièrement raison. Mais en clair, ce n'est pas une histoire de personne. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, depuis que je suis président des Républicains, j'ai voulu renouer le dialogue avec nos électeurs.
Oui, mais ne jouons pas sur les mots. Vous êtes derrière Jean-Martin Mondolone et pas derrière Stéphanie Grimaldi. Est-ce logique? C'est ma question. Puisque Jean-Martin Mondolone a toujours dit qu'il n'était pas encarté LR, qu'il ne souhaitait pas l'être.
Donc, je vais quand même terminer mon propos, juste pour vous dire que nous avions à cœur d'écouter notre électorat. Et notre électorat, qu'est-ce qu'il demande en premier lieu? Quelle est la question la plus prégnante? C'est faites l'union chaque fois que ce sera possible. C'est la seule manière de défendre les valeurs de la droite, aujourd'hui en Corse comme ailleurs. Donc, se poser une question simple. Comment au mieux répondre à cette question sur Bastia? La question, c'était l'union. Ensuite, l'autre question, c'était qui pour réaliser cette union? Et vous avez bien vu que Stéphanie Grimaldi, en étant démocratie, a décidé d'annoncer sa candidature avant même que la Commission nationale d'investiture ne se réunisse. Ce faisant, elle prenait le risque de ne pas voir sa démarche couronnée de succès. C'est ce qui s'est passé.
En attendant, elle a décidé de se maintenir, en tout cas pour l'heure. Vous en avez discuté avec elle?
Oui, mais si vous voulez, encore une fois, je respecte le côté démocratique de sa décision, mais vous savez, les Républicains, c'est anciennement l'UMP et c'est anciennement la droite traditionnelle en France et en Corse. Et chez nous, on a une culture de l'ordre. Je vais faire un petit clin d'œil à Jacques Chirac qui disait « un chef, c'est fait pour cheffer ». Et j'ai envie de vous dire « un militant, c'est fait pour accepter les décisions de son parti ». D'accord. Donc, encore une fois, je voudrais clarifier parce que vous me posez la question, certains ne m'ont pas posé la question et ont communiqué. C'est malheureusement aujourd'hui le cas des fake news. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ville de plus de 30 000 habitants, Commission nationale d'investiture. C'est la règle. Donc, vous avez des gens qui ont déposé leur candidature près de cette Commission nationale d'investiture, dont Stéphanie Grimaldi. Le résultat, vous le connaissez. Elle n'a pas obtenu ce soutien ni cette investiture. Je crois que la moindre des choses, c'est d'expliquer que, ce faisant, elle se met en marge de la décision de son parti.
Et donc, culture de l'ordre oblige, elle est menacée aujourd'hui, Stéphanie Grimaldi, d'exclusion des Républicains?
Absolument pas. Elle n'aura sûrement pas le soutien. Et j'espère que là aussi, elle saura raison garder peut-être et réfléchir. On est encore loin de l'élection municipale. Mais apporter sa pierre à la division et non pas à l'édifice de l'Union, je pense que ce serait contre-productif.
À Ajaccio, autre cas de figure, Laurent Marcangeli, candidat, maire sortant, qui lui aussi a quitté les Républicains. Il sera soutenu par votre parti?
Alors écoutez, je ne connais pas encore le positionnement de... Vous savez qu'on a une fédération départementale de chaque côté de Vitzavone. Je ne connais pas encore le positionnement de mes collègues de Corse-Sud, mais je vais parler en mon nom.
Il y a un certain flottement au niveau de la fédération.
On peut le dire. Je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous on est sur des projets de proposition d'alternance à la majorité nationaliste. Et clairement, même si Laurent Marcangeli n'est plus aux Républicains, il incarne en tout cas pour moi encore une crédibilité en matière de gestion municipale. Donc, pour ma part, moi, je soutiens Laurent Marcangeli sur Ajaccio.
En tout cas, si vous étiez à Ajaccio, vous le soutiendriez.
C'est exactement ça.
Porto Vecchio, rapidement, que pensez-vous des négociations qui ont lieu, des tractations entre Georges Mille, hein, LR aussi, hein, et Jean-Christophe Angelini, les nationalistes?
Mais écoutez, je regarde ça un petit peu.
Ça fait des ordres un peu, non?
Avec une certaine distance. Donc, moi, je ne suis pas trop partisan qu'on parle des partis et de rapprochement entre le PNC et les Républicains. J'ose imaginer qu'on est dans une démarche communale, mais bon, Porto Vecchio, c'est déjà une commune d'une certaine taille. Je vous avoue qu'il y a un petit manque de lisibilité qui ne me convient pas tout à fait non plus.
Alors, puisque vous parlez de lisibilité, où en est-on, François-Xavier Tchécol, de la création d'une fédération Les Républicains régionale, objectif maintes fois affiché par vous-même, mais jamais réalisé. De guerre lasse d'ailleurs, Marcel Franchitsch, votre homologue de Corse du Sud, a jeté l'éponge.
Alors moi, je continue de vous dire que j'y suis favorable. Aujourd'hui, on se heurte à un problème purement administratif. Hein. Vous savez, notre parti a un peu son congrès de Versailles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les deux fédérations sont gravées dans le marbre parce que chaque fédération est l'outil habilité en France pour représenter le parti. Et aujourd'hui, faire passer le message administratif qui voudrait qu'une fédération régionale se substitue, ça veut dire, chez nous, à un congrès de Versailles pour les Républicains. Je vous cache pas qu'avec l'actualité, notamment la démission de Laurent Wauquiez, nouvelles élections, c'est passé un peu au second plan. Mais je peux vous confirmer que moi, je suis sur cette ligne-là et j'espère qu'il y aura des avancées assez rapidement.
Et au niveau national, puisque vous en parliez après la démission de Laurent Wauquiez, les élections vont avoir lieu bientôt. Vous soutenez Christian Jacob ?
Oui, alors sans surprise aucune, mais si vous me permettez deux secondes d'étayer mon propos, d'abord je soutiens Christian Jacob parce que pour moi c'est une vieille tradition chiracienne et c'est la droite sociale, la droite du rural. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un ancien agriculteur, donc on est en plein dans cette droite qui aujourd'hui doit défendre au mieux l'intérieur de la Corse, les valeurs de la Corse et les valeurs d'un monde qui quelque part est à distance de Paris. Donc je le soutiens, mais je suis forcé de constater la valeur des autres candidats et ça me fait plutôt plaisir de voir que le débat, pour une fois, voilà assez haut.
Mais très franchement, Christian Jacob, ce pourrait être l'homme qui ira en 2022 à la présidentielle pour représenter le camp LR.
Je ne pense pas. Ça n'engage que moi, mais je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il serait l'homme qui va permettre de retrouver un peu de calme et une volonté de travailler tous ensemble au niveau des Républicains. Il est aussi l'homme qui peut marquer un retour au rapprochement entre les centristes et les gens qui, chez nous, sont plutôt sur l'aile droite.
L'homme de transition, en gros.
Voilà, exactement.
Merci François-Xavier Tchekol d'avoir été notre invité.
Merci.